La nuit tombe sur la jungle de Calais. Le long des clôtures barbelées qui séparent le plus grand bidonville de France de l'autoroute, une attaque en règle se prépare.
Allez, vite, vite!
Plusieurs dizaines de migrants, certains équipés de pinces coupantes, cisaillent le grillage en quelques secondes, puis se frayent un chemin.
Venez les gars, on va soulever la clôture.
Une patrouille de CRS tente de repousser les assaillants.
Je te jure, je vais passer.
Les migrants essaient de négocier.
Non, mon ami, s'il te plaît, s'il te plaît.
Mais impossible pour les policiers de protéger toute la clôture.
Vas-y, vas-y.
Et en quelques secondes, les migrants sont sur l'autoroute. Leur but, stopper ces camions à tout prix et provoquer un embouteillage pour les prendre d'assaut.
Ouvre plus, ouvre plus.
Car tous ces poids lourds s'apprêtent à prendre le car ferry pour l'Angleterre. Alors tous les moyens sont bons pour embarquer clandestinement.
Ça suffit, pas plus.
En quelques minutes, plusieurs centaines de migrants arrivent de la jungle et investissent l'autoroute, sous le regard impuissant des chauffeurs routiers. Des CRS arrivent en renfort pour reprendre le contrôle de la rocade.
Comme ça depuis un petit moment. Mais ça arrive souvent ce genre d'embouteillage. Excusez-moi, je travaille. Vers nos 2, vers nos 4.
La circulation reprend péniblement sur la bretelle d'accès au port de Calais, devenu un point noir pour les camionneurs d'Europe entière.
C'est une situation dangereuse. Il y en a qui viennent de jeter des pierres sur les camions. Ils ont des bâtons, ils forcent les remorques et ils abîment la cargaison. Ils détruisent des chargements entiers et il n'y a pas assez de police.
Cette nuit, sur les centaines de candidats au voyage vers l'Angleterre, impossible de savoir combien ont finalement réussi à prendre le bateau. 5 heures du matin, retour à la jungle. Demain, comme presque tous les soirs, les migrants reviendront tenter leur chance. Calais, 73 000 habitants et une situation géographique unique. C'est la ville d'Europe la plus proche des côtes anglaises, à seulement 40 km de l'autre côté de la Manche. De part et d'autre de la ville, deux sites stratégiques, Eurotunnel et ses 150 trains quotidiens vers l'Angleterre, et le premier port français de voyageurs. 45 cars ferry et jusqu'à 80 000 passagers par jour. C'est juste à côté, le long de l'autoroute qui mène au bateau, que plusieurs milliers de migrants ont trouvé refuge, dans une zone marécageuse, surnommée la jungle. Syriens, Afghans, Soudanais, Érythréens, beaucoup d'entre eux ont fui la guerre.
L'aviation a tout bombardé. Mon école, notre maison et toute notre rue.
Et ils sont prêts à tout pour passer en Angleterre. Mais en face, 2000 policiers et gendarmes verrouillent la frontière. La confrontation vire à la guérilla urbaine.
Ils sont dans une prison à ciel ouvert. C'est une cage. Ils ne peuvent pas partir.
Pour les Calaisiens qui vivent à côté de la jungle, la cohabitation est devenue insupportable.
J'en ai marre de toute cette situation-là qui me pourrit la vie.
Alors que la colère gronde et que certains commencent à se radicaliser...
On est chez nous !
Sans pas l'immigration !
Sans pas l'immigration !
L'État durcit le ton et commence à raser la jungle.
Allez, vous habiller, monsieur.
tandis que les filières criminelles de passeurs se multiplient.
C'est du trafic d'êtres humains, clairement, parce que les clandestins sont considérés par les passeurs comme une marchandise.
Aujourd'hui, Calais est devenue une poudrière. Nous avons passé 4 mois au cœur d'une ville sous haute tension. L'histoire de la jungle commence il y a tout juste un an, lorsque les autorités demandent à quelques centaines de migrants qui squattaient au centre-ville de s'installer sur ce terrain isolé. L'été dernier, un afflux massif de réfugiés venus des quatre coins du monde fait exploser la population du campement. Ils seront jusqu'à 6000, voire 8000 personnes selon les estimations. Au pied de l'autoroute, un bidonville géant est né, avec ses rues, ses commerces. Il y a même une église orthodoxe éthiopienne. Mais aussi des mosquées abritées sous des tentes et une école.
Bonjour. Comment ça va?
Avec des cours donnés par des bénévoles français.
Dania.
Car au moins 300 enfants et adolescents vivent sur la jungle. Le rêve de tous ces migrants, c'est l'Angleterre. Pour s'en rendre compte, il suffit de franchir la porte d'un des nombreux cafés qui ont poussé sur la jungle. Celui-ci est fréquenté principalement par des Syriens.
Les gars, les amis, qui parmi vous veut rester en France pour demander l'asile? Que ceux qui veulent partir en Angleterre lèvent la main. Gardez vos mains levées. Levez la main. Allez, levez la main.
Chaque personne ici a un frère, un ami, quelqu'un de sa famille qui est là-bas. Et il veut le retrouver. On veut reconstituer notre famille comme avant. C'est humain comme démarche. Je pense que la plupart des gens qui sont ici sont déterminés à se battre et à ne pas dévier de ce but.
Parmi les candidats au départ, certains sont très jeunes. C'est le cas de cet adolescent syrien. Il s'appelle Firas, il a 15 ans. Cela fait 2 mois qu'il est dans la jungle. Il vient de Dera, au sud-ouest de la Syrie. Sa vie a basculé le jour où l'armée de Bachar al-Assad a pilonné la ville.
Le quartier entier a été détruit. Je ne sais rien de mes parents. Je suis parti avec un de mes amis en voiture. Avec plusieurs personnes, on a pris la fuite. On est parti jusqu'en Turquie.
Firas s'est enfui en suivant un groupe de Syriens à travers toute l'Europe, jusqu'à Calais. Dans la jungle, le jeune garçon a miraculeusement retrouvé son frère aîné, qui avait fui de son côté. Les deux adolescents se sont réfugiés dans cette cabane de bois recouverte d'isolants, construite par des bénévoles. Voici Fares, 17 ans, toujours ému par le souvenir des retrouvailles avec son petit frère.
Je suis heureux parce que je pensais que tous les membres de ma famille étaient morts. Mon frère est arrivé jusqu'ici. Il n'a que 15 ans et Dieu l'a protégé de la mort. Quand j'ai revu mon frère, j'ai eu l'impression de revivre.
Des retrouvailles d'autant plus improbables que Fares a bien failli mourir lors de son périple.
Je suis parti en bateau depuis la Turquie vers la Grèce. On nous a mis dans un bateau qui avait une capacité de 18 personnes. Mais on était 55 à bord. Au milieu de la mer, à cause du poids, le bateau a coulé. Un des passagers avait un gilet de sauvetage, mais moi je n'en avais pas.
Tu sais nager ?
Oui. Mais j'ai vu des enfants se noyer devant moi. Et puis aussi une femme et d'autres personnes.
Dans cette cabane de 2 mètres sur 3, les deux frères tentent aujourd'hui de survivre comme ils peuvent. Quelques vêtements, de quoi cuisiner, voilà tout ce qu'ils possèdent. Leur seul moyen de subsistance, ce sont les colis alimentaires distribués par des associations.
Regardez, on n'a presque rien à manger ici. Ils nous donnent des épices pour cuisiner, mais comment voulez-vous qu'on fasse? On n'a même pas de gaz. Une cartouche comme ça, ça coûte 3 euros ici. C'est une vie très difficile. Il y a de quoi pleurer. On n'a pas à manger ni à boire. Regardez, pour manger ces petits pois, il faudrait que je les fasse cuire. Il nous faudrait aussi du pain. Je ne peux pas les cuisiner. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant pour deux personnes ?
Livrés à eux-mêmes, les deux frères n'ont plus qu'un seul espoir.
La seule personne de notre famille qu'il nous reste, c'est notre oncle, qui est en Angleterre. Le seul lien qu'on ait, c'est son numéro de téléphone. Mais je n'ai même pas d'argent pour acheter un portable.
C'est la merde sans les parents.
Comment tu te sens sans eux ?
Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Je me dis qu'ils sont morts. C'est tout. On espère juste que Dieu nous permette de partir d'ici et nous laisse rejoindre notre oncle.
Sur la jungle, il n'y a pas que des réfugiés. Certains sont venus ici pour faire des affaires. Ce sont les patrons des dizaines de restaurants et d'épiceries installés là de façon totalement illégale. On y trouve tous les produits de première nécessité, de la nourriture aux vêtements, en passant par le shampoing, ou bien encore les cigarettes vendues à l'unité et fabriquées à la chaîne. Des commerces qui tournent à plein régime. Ce restaurant, le Kaboul Café, est l'un des premiers à avoir ouvert sur la jungle. Son patron s'appelle Sikandar, et comme la quasi-totalité des commerçants ici, il vient d'Afghanistan.
Là, c'est de la viande qui est en train de bouillir, qui n'a pas fini de cuire. Ce sera bientôt prêt. Et ici, c'est un plat afghan.
Sikandar n'est pas là pour passer en Angleterre. Il vit en Europe depuis 15 ans et possède même un titre de séjour italien. S'il est venu sur la jungle, c'est parce que c'est un bon business.
Je peux me faire entre 1500 et 2000 euros par mois, juste pour moi.
Des revenus invérifiables, mais manifestement l'affaire est rentable. À la plonge et en cuisine, Sikandar emploie 4 réfugiés. Ils peuvent servir plus de 100 repas par jour, à 5 euros la portion. Et la salle ne désemplit pas. Sikandar a aussi un coin épicerie, avec des produits qu'il va chercher dans les supermarchés de Calais.
Auchan, Carrefour, Aldi, Lidl. Oui, je suis un bon client. Parce que tous les jours, j'achète pour 200, 300, voire 400 euros de marchandises. Si vous additionnez toutes mes factures, ça fait plus de 10 000 euros par mois.
Sous son comptoir, Sikandar garde précieusement tous ses tickets de caisse pour pouvoir prouver qu'il a bien acheté tout ce qu'il vend.
Celle-là, il y en a pour 223 euros. Crème légère, purée de tomates. Ah, je peux pas lire le français. On paye des taxes, la TVA, parce qu'on va au supermarché. On n'achète pas directement chez le grossiste.
Mais tous les restaurants ici sont illégaux. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça ?
Vous savez, on paye des taxes. Le gouvernement, la façon dont on travaille officiellement, ici, on ne connaît pas. Le système n'est pas comme ça ici, d'avoir des sociétés en règle avec des caisses enregistreuses. Si on nous en donne, on le fera, comme ça se fait partout en ville.
Mais les autorités n'ont pas vraiment l'intention de laisser la jungle et ses commerces prospérer. À l'entrée du bidonville, des CRS veillent en permanence pour protéger l'autoroute. Et les affrontements avec les migrants sont quasi quotidiens. Cet après-midi, sans raison apparente, un groupe de jeunes défie les policiers. La réplique ne se fait pas attendre. Les CRS arrosent le camp au gaz lacrymogène. Des heurts réguliers dont les migrants rejettent la responsabilité sur la police.
On a tout le temps des problèmes. Regardez, on était en train de manger à l'intérieur et une grenade est arrivée dans la tente, en plein sur mon bras.
Les migrants ne sont pas les seuls à trouver l'atmosphère irrespirable. Les Calaisiens qui vivent à côté de la jungle, eux aussi, commencent à craquer. Comme tous les jours, Sarah Gerlach vient voir sa mère qui habite Chemin des Dunes, la route qui longe le bidonville. Un chemin qui, depuis quelques mois, a perdu de sa tranquillité.
Voilà, on attend pour être contrôlé. Ça dépend. Hier, on n'a pas été contrôlé, avant-hier non plus. Ça dépend en fait du bon vouloir des CRS et puis peut-être de la météo, j'en sais rien. Et puis ces gens-là qui passent à pied, on les contrôle pas.
Bonjour, je vais voir ma maman au 99 Chemin des Dunes.
Ah, c'est la petite ferme qu'il y a sur le côté à droite. Bah, allez, c'est courage.
Ce chemin gardé par les CRS est devenu la frontière entre la jungle et les premiers riverains. Deux camps qui ne se mélangent pas et s'observent avec méfiance.
Derrière le talus, là-bas, on a les tentes, les petites cabanes, enfin, tout ce qui est là illégalement. Donc voilà, donc on a des chalets, on a des tentes, on a des caravanes, on a des panneaux solaires, on a des points d'eau, enfin il y a un peu de tout. Et là nous arrivons chez ma maman, où nous avons donc tout sécurisé comme vous pouvez le constater, c'est-à-dire portail, motorisé, clôture. Sur la droite, derrière le terrain, on a mis donc du barbelé. Nous avons mis aussi plein de détecteurs lumière et les caméras de surveillance vidéo, une derrière, une devant. Et maintenant, c'est pas les migrants qui sont dans un ghetto, c'est maman qui est française qui vit dans un ghetto.
Des travaux de sécurisation que Sarah a dû prendre à sa charge, alors que sa mère n'est que locataire de la maison. Le propriétaire, qui n'est autre que la mairie de Calais, n'a pas mis un centime.
Donc ça vous a coûté combien au total ?
Environ 20 000 euros, tout compris. Mais bon, la vie de ma mère n'a pas de prix. Donc je ne pouvais pas me permettre d'attendre que l'État réagisse.
Sarah est inquiète, car hier soir, sa mère Nadine a été effrayée par un groupe de migrants qui se tenait juste devant son portail.
Bonjour. Voilà. Ça va ? T'as dormi un petit peu ou pas ? T'as pas dormi ? Donc, en fait, c'est parce que t'as eu peur hier. Et il s'était passé quoi ou juste ?
Ben, ils étaient tous alignés le long du portail.
D'accord. Donc là, t'es sortie ?
Là, je suis sortie et j'ai vu... Je les ai vus tous alignés, là.
Ouais. Et alors ?
Moi, j'ai fait 17.
T'as eu peur, en fait.
Difficile pour Nadine de ne pas sombrer dans la paranoïa. À 65 ans, elle vit seule depuis la mort de son mari il y a 12 ans. La jungle, elle la voit comme une menace.
Nadine, ça fait combien de temps que vous n'êtes pas sortie de chez vous ?
Ouf. Des mois, des mois.
L'ordinateur de Nadine retransmet en permanence les images de ses caméras de surveillance.
Moi, je suis reliée avec l'ordinateur. Sans arrêt, je regarde. Ça devient une obsession. À longueur de journée, je fais ça. Voilà.
C'est pour ça que je veux pas qu'elle soit à cette fenêtre.
Ben, regardez ce qui se passe.
Ben, tu t'en fous, il passe.
Tiens, il y en a un qui arrive en vélo, là. Bien.
Voilà.
Certains voisins ont déménagé, incapables de supporter l'apparition de ce bidonville, juste sous leur fenêtre. Mais Nadine n'a pas l'intention de partir. Cette maison, c'est toute sa vie. Elle est arrivée ici il y a 45 ans. Sarah n'avait que 9 mois.
Là, je suis à la porte d'entrée, là. Tu m'as devant aussi...
Avec une poupée, là.
Ouais, puis là, un petit berceau.
Là, un petit berceau.
La belle époque. T'as des repas de famille qui ont été faits, des repas de avec plein d'amis.
Les vacances aussi.
Les vacances, les gens de Paris, des amis qui venaient passer leurs vacances ici. Hein, c'est la campagne, c'est la mer, c'est le calme. Chaque morceau de cette maison a une histoire, tout simplement.
J'en ai marre de toute cette situation-là qui me pourrit la vie. Qui me pourrit la vie.
Sarah s'est tournée vers la mairie de Calais à qui appartient la maison pour tenter de trouver une solution. En guise de réponse, on lui a fait comprendre qu'il serait mieux pour la sécurité de sa mère qu'elle quitte les lieux. Sarah refuse d'envisager cette option, pour une bonne raison.
Ici, on est dans le garage de mon papa quand il était installé à son compte, qui était garagiste. Et tout est resté dans l'état, à peu près. Hein. Il manque quelques petites choses, mais bon, pratiquement dans l'état avec son pont élévateur. Donc, son souhait, c'était de se faire incinérer et d'être dans son garage, dans sa maison, où il était là depuis 1970. Donc, je vous présente mon papa. On ne peut pas partir d'ici, c'est pas possible. C'est pas possible. La meilleure volonté du monde, c'est pas possible. Pas pour lui. Je ne le laisserai pas faire. C'est sa vie à maman, à moi. C'est ma vie aussi. J'ai besoin de cet endroit pour vivre. C'est mes racines, tout simplement.
Les riverains du bidonville ne sont pas les seuls à s'inquiéter pour leur avenir. L'apparition de la jungle a encore fragilisé une ville déjà durement frappée par la crise. Un jour de semaine ordinaire dans les rues de Calais. Le centre-ville est étonnamment calme, peu de monde sur les trottoirs et un nombre alarmant de rideaux de fer baissés, de commerces désaffectés et de boutiques à vendre ou à louer. Consommateurs et touristes ont déserté Calais à cause de l'image catastrophique que la jungle véhicule aujourd'hui. Frédéric Van Gansbeck, boulanger et patron d'un collectif de commerçants, ne sait plus comment redorer l'image de sa ville.
Voilà, c'est paisible, Calais. Je veux regarder, il suffit de regarder, il n'y a pas un migrant en centre-ville.
Il n'y a pas grand monde au centre-ville.
Il n'y a pas grand monde, mais pas de migrants non plus.
Depuis quelques temps, Frédéric observe avec inquiétude la lente hémorragie qui gagne la ville. En ce moment, pas un mois sans qu'une boutique ne fasse faillite.
Là, on a donc le Saint-Malo qui est fermé.
Dans cette rue passante, trois bars ont mis la clé sous la porte.
Après, donc, on a en face une autre, donc on a le 6-6 qui a fermé il y a 6 mois à peu près, 6-7 mois de mémoire, qui est fermé. Puis après, bah, la cellule d'après qui est fermée aussi. Le Waikiki qui vient de fermer. Donc cette espèce de gangrène qui s'avance au fur et à mesure. On a des commerces qui ferment les uns derrière les autres.
Bien sûr, ces établissements n'ont pas fermé uniquement à cause de la mauvaise publicité faite à la ville. À Calais, il y a 18% de chômage. C'est l'une des localités les plus sinistrées de France. Mais selon Frédéric, l'afflux migratoire n'a rien arrangé.
La jungle, ah oui, c'est la tête dans le seau. C'est-à-dire qu'on surnage avec de l'eau à peu près au niveau de la bouche, mais on arrive à respirer avec le nez. Et la jungle a fait, cette problématique d'image, a fait qu'on nous a mis la tête dans le seau. Et clairement, c'est ce qui se passe aujourd'hui.
Le collectif des commerçants réclame l'exonération totale des charges pour toutes les entreprises de Calais. Frédéric veut éviter d'autres fermetures, notamment dans le secteur de la restauration qui a perdu un tiers de son chiffre d'affaires en un an. C'est le cas de cette crêperie sur la place principale.
Bonjour Fred.
Bonjour.
Dominique exploite une salle de 37 couverts. Ce midi, elle est quasiment vide.
Tu sais bien que c'est pas mon genre de...
Non, pas trop, non.
...de pleurnicher, mais là, vraiment, oui, là, c'est alarmant. On arrive à un point où on s'inquiète beaucoup. L'année dernière, c'est la première année où mon bilan était négatif, était déficitaire, en 30 ans de métier. C'est la première année que je vois ça.
D'après vous, la jungle met en péril la vie économique de Calais ?
Finalement, elle le met en péril maintenant parce que, avec cette image négative toujours qui est relayée sans cesse, c'est vrai qu'elle nous met en difficulté. Alors, elle nous met en difficulté parce que les gens n'ont plus envie de venir chez nous.
Je pense qu'effectivement, ça a été un accélérateur de fermeture pour certains. Ça, c'est indéniable. Au-delà de la fermeture, la problématique qui me paraît ultra importante, c'est qu'au regard de ce qu'on voit aujourd'hui, ça ne rouvrira pas. Et c'est ça qui m'inquiète.
Des commerçants asphyxiés dans une ville qui continue à attirer les migrants comme un aimant. À l'autre bout de Calais, la gare TGV. Comme tous les jours, l'équipe de l'adjudant Deblanc vient contrôler les arrivées de trains en provenance de Paris.
On va descendre et puis on va aller sécuriser le quai déjà. On va déjà voir s'il n'y en a pas qui sont en attente.
La gare de Calais, c'est la fin d'un long voyage pour les migrants qui ont quitté leur pays. Ici, jusqu'à récemment, l'adjudant Deblanc et ses gendarmes en interceptaient jusqu'à 80 par jour. Depuis quelques mois, la présence policière s'est renforcée, mais ils sont encore une vingtaine de réfugiés à débarquer quotidiennement.
Il y en a en bas là ? Non, avec ces... Là-bas là ? Non ? Mon tout noir, Caro, qu'est-ce qu'on pense ? Là, s'il vous plaît. Et mettez-vous là.
Yeah.
Voilà.
Vous avez des papiers ?
Un passeport ?
J'ai pas de passeport.
Nationalité ?
Ma nationalité, c'est afghan.
Afghan ?
Yeah.
Vous avez une pièce d'identité ?
Paper ?
Papier ?
Oh, ok.
Ok, mettez-vous là, s'il vous plaît.
Yeah. Okay. How old are you ?
Vous avez quel âge ?
Votre âge ? How old are you ?
Mon âge ? 18 ans.
18 ?
18 ans ?
Sans papier, le jeune homme est interpellé. Il semble voyager seul, mais en sortant de la gare...
Hop, s'il vous plaît.
Messieurs.
S'il vous plaît. Identity
carte d'identité ou passeport.
Passeport.
Ticket.
Billet de train.
Your nationality.
Votre nationalité.
Nationality.
Passeport.
Your nationality. Afghan.
Afghan.
Yeah.
Les deux hommes présentent leur billet de train.
No paper on
pas de papier
you?
Sur vous.
Non.
Mais ils n'ont identity pas de papier card. Non plus.
Passeport,
non.
Ok,
allez.
Les trois Afghans vont être fouillés en attendant l'arrivée de la police aux frontières.
No arms.
Pas d'armes ?
Non.
Ça n'est pas vraiment comme ça qu'ils imaginaient l'épilogue de leur périple.
En Afghanistan, on ne sait pas vraiment ce qui se passe ici. C'est quand on arrive qu'on se rend compte de la façon dont ça se passe vraiment. Et là, on se sent un peu perdu.
Juridiquement, ces réfugiés sont un vrai casse-tête. Sans papier, ils n'ont rien à faire sur le territoire. Mais comme ils ont fui un pays en guerre, il est impossible de les expulser. La police aux frontières n'aura pas d'autre choix que de les laisser repartir. Le problème, c'est que les autorités ont aussi l'obligation de les empêcher de passer en Angleterre. C'est un accord entre les deux pays qui le dit. Depuis 2003, le contrôle de la frontière britannique doit se faire du côté français. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de problème. Mais avec l'afflux migratoire de ces derniers mois, il a fallu protéger les points de passage. Des kilomètres de clôtures blanches et de barbelés ont donc poussé dans le paysage calaisien. Tout a été payé par l'Angleterre. On en trouve entre la jungle et l'autoroute, autour du port et des terminaux d'embarquement, mais aussi autour d'un point stratégique, le tunnel sous la Manche. Devant les clôtures d'Eurotunnel, 6000 arbres ont même été coupés pour empêcher les migrants de se cacher. Des champs entiers ont été inondés pour freiner leur passage. Et voici l'homme chargé de garder cette forteresse. Sous les ordres du lieutenant-colonel Gineste, 450 gendarmes mobiles ont été déployés pour sécuriser Eurotunnel. Chaque semaine, l'officier décolle de Calais pour vérifier l'étanchéité de son dispositif et des 29 km de clôture qui entourent l'entrée du tunnel.
Ici, à nos 2 heures, on a la zone de triage et de contrôle de tous les poids lourds. On constate qu'il y a quand même pas mal de poids lourds qui sont en attente pour embarquer dans les trains. Face à nous, donc, les entrées et sorties du tunnel. Donc avec un tuyau pour le côté partant vers l'Angleterre et un tuyau pour le côté sortant.
La crainte du gendarme, c'est une attaque massive comme celle qui s'est déroulée récemment.
Là on est en train d'approcher de la zone par laquelle on a eu un afflux de migrants il y a quelques mois. Les gens étaient descendus sur les voies et s'étaient engouffrés à l'intérieur des tunnels.
C'était ici, en septembre dernier. Filmé par la vidéosurveillance, plus d'une centaine de migrants escaladent les barrières. Puis ils vont s'engouffrer dans le tunnel, sous les yeux des vigiles. Ils seront finalement arrêtés sous la mer, à plus de 15 km de l'entrée. Depuis, le dispositif a été renforcé et plus aucun migrant n'a réussi à entrer. Mais il y a encore plusieurs dizaines de tentatives chaque nuit.
D'accord, vu. A priori, c'est des vieilles traces de passage de migrants qui ont réussi à s'infiltrer derrière les premières barrières et on arrive à retrouver beaucoup de vêtements, d'effets plus ou moins chauds qui sont laissés à l'abandon hein, pour les gens qui ont passé quelques heures autour pour essayer d'attendre le bon moment pour s'infiltrer.
Un dispositif de plus en plus hermétique qui pousse les migrants à prendre toujours plus de risques pour passer. Ce soir, un accident vient de se produire le long des voies ferrées qui mènent à Eurotunnel. Un migrant est tombé du haut de ce pont qui enjambe les clôtures. Une chute d'environ 10 mètres. Les secours viennent juste d'arriver. La victime est un Soudanais. Il est encore conscient.
On a été alerté par les cris d'une personne, là. On a essayé de la chercher et en arrivant sur les lieux, donc on a trouvé un migrant qui venait de faire une chute juste derrière ce grillage blanc.
L'homme a vraisemblablement tenté de franchir la clôture en suivant ces poutrelles qui soutiennent le pont. Une prise de risque insensée qui montre jusqu'où les réfugiés sont prêts à aller pour passer.
On les voit traverser l'autoroute, des choses comme ça, mais là, prendre un risque comme ça, non, c'est la première fois.
Il aurait pu se tuer concrètement.
Ah oui, complètement. Ouais. Du pont, ouais. S'il aurait pu, là, il est tombé apparemment donc sur ses pieds, mais il aurait pu tomber sur malheureusement la tête ou le dos. Ça aurait pu être beaucoup plus dramatique que ça.
L'homme s'en sortira miraculeusement, sans séquelles graves. Il a eu de la chance. À Calais, depuis janvier 2015, une vingtaine de migrants sont morts victimes de chutes. Ou bien happé par des voitures ou des trains. Sur la jungle, malgré les risques, certains migrants parviennent encore à se glisser entre les mailles du filet. C'est le cas de Fares, l'aîné des deux frères syriens que nous avions filmé dans leur cabane. Il a réussi à se cacher dans la remorque d'un camion et à embarquer clandestinement dans un ferry pour l'Angleterre, laissant son frère derrière lui. Deux mois plus tard, nous avons retrouvé sa trace de l'autre côté de la Manche, à 200 km à l'ouest de Londres, Cardiff, la capitale du Pays de Galles. Cette ville de 350 000 habitants est l'une des métropoles anglaises choisies par les autorités pour accueillir les migrants qui parviennent jusqu'au Royaume-Uni. Fares vient juste de fêter ses 18 ans. Il est arrivé ici après avoir été ballotté de foyer en foyer pendant des semaines. À sa descente du bateau, il a été placé dans un centre de rétention et interrogé sur son parcours. La première étape de sa nouvelle vie de demandeur d'asile.
Quand j'ai débarqué au port de Douvres, ils m'ont pris mon passeport et tous mes papiers syriens. Je leur ai dit « Mais comment je vais prouver mon identité ici ?» Alors ils m'ont dit « Voilà, on te donne cette carte. »
Sur ce document provisoire, il est écrit qu'il n'a pas le droit de travailler. Aujourd'hui, Fares vit dans le dénuement le plus complet. Il ne perçoit aucune aide financière. Les vêtements qu'il porte lui ont été prêtés par un ami. Le jeune Syrien commence à déchanter.
Je ne pensais pas que ça allait être comme ça ici. J'ai mis ma vie en danger pour quelque chose que je pensais énorme et grandiose. Mais tout n'était que mensonge. Ça ne valait pas le coup de risquer de mourir. Ici, personne ne s'occupe de toi. Et personne ne s'intéresse à toi.
En attendant que l'on statue sur son titre de séjour, Fares a été placé dans un foyer pour réfugiés dans la banlieue de Cardiff. Un hôtel géré par une société privée pour le compte de l'État et qui est actuellement dans le collimateur des autorités. Car dans ces trois maisons mitoyennes, s'entasseraient près d'une centaine de migrants, alors qu'il n'y a que 36 places.
Ce centre ici est très mauvais. Il n'y a pas de propreté. Au niveau de la nourriture et des vêtements, on n'a rien. Et comme on n'a pas d'argent, celui qui veut fumer, s'acheter des sous-vêtements, se raser ou se couper les cheveux, il ne peut rien payer. Et en plus, il fait très froid ici.
Cette famille tchétchène vient tout juste d'arriver. Ils sont sous le choc.
Il y a un manque total d'hygiène dans cette maison. C'est très dangereux pour mes enfants ici. J'ai demandé l'asile en Angleterre parce que je voulais leur sauver la vie. Pas pour les tuer dans ces conditions. On a appelé le ministère de l'Intérieur, on a appelé la société qui gère le foyer. Ils nous ont répondu que si on refusait, on n'aurait plus rien. Ils fermeront la porte et on sera à la rue dans ce froid. Mais je vivrai jamais dans une maison comme celle-là. Je suis pas habituée à ça.
Le foyer est interdit aux caméras. Alors Fares a filmé l'intérieur avec son téléphone portable. Ici, on est très loin de l'Eldorado anglais, celui dont rêvent les migrants de l'autre côté de la Manche. Des locaux vétustes et des sacs poubelles dans les couloirs.
Regardez comme c'est sale. Voilà ma chambre, la numéro 16.
La chambre est prévue pour 4 occupants, mais elle est visiblement surpeuplée.
On est 6 personnes ici. Moi, je dors par terre et il y a un autre gars qui dort à côté.
Une pièce sale et exiguë que Fares est obligé de partager avec des inconnus.
J'ai l'impression que je suis dans la jungle. Il n'y a pas beaucoup de différence entre ici et là-bas.
À Cardiff, la quasi-totalité des réfugiés syriens finissent par obtenir leur titre de séjour après quelques mois d'attente. Malgré ses désillusions, Fares commence à imaginer sa nouvelle vie ici. Mais il lui manque encore l'essentiel.
Mon avenir, il est ici, avec mon frère Firas. Ça serait beaucoup mieux s'il était là. Il va avoir 16 ans. Son rêve, c'est de faire des études. Je vais l'aider. Je veux qu'il apprenne l'anglais. Je veux être le meilleur des grands frères pour lui. Je voudrais lui faire oublier toutes les difficultés et tous les malheurs qu'on a vécus en Syrie et toutes les souffrances qu'il endure à Calais depuis 5 mois.
De l'autre côté de la Manche, à 350 km de Cardiff, dans la jungle de Calais, nous retrouvons Firas, le petit frère de Fares. Il y a 2 mois, le soir où son aîné est passé en Angleterre, Firas était dans un autre camion, mais il a eu moins de chance.
La police nous a vus. Ils ont gazé à l'intérieur du camion et ont fermé la porte. Le camion est arrivé au scanner qui a détecté notre présence. Alors ils nous ont fait descendre et on a dû revenir à la jungle.
Comment tu te sens depuis le départ de ton frère ?
Sans lui, je suis perdu. Je me sens abandonné. Je ne suis plus rien.
Ce soir, Firas va se joindre à un groupe de Syriens qui veulent tenter leur chance et tromper la vigilance des forces de l'ordre.
Regarde tous les camions de police.
Police. Un embouteillage de camions va se former depuis le port jusqu'ici, mais ça va être difficile.
À cause de la police ?
Oui, regarde, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 voitures de police qui bloquent l'accès. Ça va être dur.
Au pied des clôtures, une centaine de Syriens se préparent malgré tout à monter sur l'autoroute. Tu es prêt à tout pour traverser ?
Ouais, je suis prêt à tout supporter. Le plus important, c'est de rejoindre mon frère.
Comme d'habitude, des petits groupes d'éclaireurs découpent les clôtures et s'apprêtent à envahir l'autoroute pour arrêter les camions. Mais cette fois-ci, la situation va déraper.
Ils visent les véhicules et les conducteurs.
cet autre groupe de migrants est plus décidé à caillasser les camions et les policiers qu'à monter dans les remorques. Sur l'autoroute, les CRS répliquent. Une bataille rangée s'engage. Au milieu, les chauffeurs routiers sont pris entre deux feux. Les pare-brises sont criblées de pierres. En seulement quelques minutes, l'autoroute se couvre de projectiles. Un combat auquel le groupe de Firas n'a aucune envie de prendre part.
Écoutez, écoutez, ce sont tous des Afghans et des Kurdes. Regardez, regardez ce qu'ils sont en train de faire.
Je vous assure que parmi eux, il n'y a aucun Syrien, aucun Égyptien, ni aucun Soudanais. On n'a rien à voir avec ça. Il n'y a que des Afghans.
Les Afghans caillassent tous les véhicules qui passent et les cassent. Et après, c'est nous, les Syriens, qui allons porter le chapeau.
D'après les Syriens, les caillasseurs seraient des passeurs et des commerçants afghans qui profitent des migrants. Ils provoqueraient la police pour empêcher les réfugiés de quitter la jungle.
Ils profitent de nous. Ils ont ouvert des magasins qui leur rapportent beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'ils foutent le bordel. Regarde, regarde. Attention. Reculez. Reculez, les gaz arrivent.
Ce soir, impossible de tenter sa chance. La réplique policière est trop forte. Les Syriens sont obligés de rebrousser chemin.
Retournez dans la jungle.
Cette nuit, les affrontements vont faire un blessé. Ce Syrien, soutenu par ses compagnons, il a eu la mâchoire fracturée par un tir de grenade lacrymogène.
C'est la police. C'est la police qui lui a tiré une lacrymo en pleine tête. Il faut vite qu'on l'emmène à l'hôpital. Assieds-toi. Reculez. Reculez. Éloignez-vous de lui. On reculait, nous. Pourquoi il nous tire dessus? Ça risque d'énerver tout le monde. Il y en a qui vont finir par riposter. La situation va devenir ingérable.
Le blessé va être conduit à l'hôpital par des bénévoles qui ont été appelés au secours. Sa blessure est sérieuse. Évacué vers l'île, l'homme passera plusieurs heures sur la table d'opération. Cette nuit, Firas n'a pas réussi à rejoindre son frère en Angleterre. Il a fini par trouver refuge dans sa cabane. Prisonnier de la jungle, à seulement 15 ans. Le lendemain matin, devant le commissariat de Calais. Voici quelques-uns de la dizaine de camions endommagés pendant cette nuit d'émeute. Ils devraient être en Angleterre à l'heure qu'il est. Leurs chauffeurs sont venus porter plainte et faire constater les dégâts.
La pierre a atterri directement sur mon ventre. J'ai dû m'arrêter, tellement je tremblais.
Hop là, voilà ce qu'on se reçoit. Et c'est pas la plus grosse. Y en a des plus petites, il y en a des beaucoup plus grosses. Et ça, vous en avez plein la route sur une centaine de mètres. Je pense qu'ils sont vraiment à un stade désespéré. Vraiment, vraiment très désespéré. Parce que pour se mettre devant un camion qui roule, pour lui jeter des pierres.
Ça vous arrive souvent, ce genre de...
Non, là, c'est la première fois. Mais ça sera la dernière, moi, Calais. Ouais, faut vraiment qu'on arrive à faire quelque chose un jour ou l'autre. Quoi, parce que là c'est plus gérable. C'est plus gérable.
Ce face-à-face quotidien entre les migrants et les forces de l'ordre, certains Calaisiens ne le supportent plus. Ils ont décidé de se regrouper en collectif pour faire entendre leur voix. Nous sommes fin octobre. Demain, ils organisent une grande manifestation dans les rues de Calais.
On fait en une couleur ou deux couleurs? Je fais déjà Calais en noir.
Voilà, attends, on va...
Sandrine est à l'origine du collectif des Calaisiens en colère. Un mouvement né l'été dernier sur Internet en réaction à l'afflux migratoire. Aujourd'hui, la page de Sandrine est suivie par plus de 65 000 personnes qui se reconnaissent dans cet emblème, un masque blanc symbolisant la détresse des Calaisiens.
Jamais on ne parle de nous, jamais. Jamais des habitants, jamais. On n'existe pas. Vous voyez, le masque blanc n'existe pas. Voilà, on devrait mettre le masque, même sans l'arme. Voilà, on n'a pas de visage, les Calaisiens. On n'a plus de vie, mais c'est normal, on ne doit rien dire. Non, je suis désolée.
Sandrine se dit apolitique, mais ses détracteurs accusent les Calaisiens en colère d'être un mouvement d'extrême droite.
On est traité de fachos, de racistes. Non, je suis désolée. Je vis simplement, je suis pas facho, je suis pas raciste, j'ai jamais été. J'ai élevé mes enfants en disant qu'on est tous pareils, et c'est tout. Mais là, c'est un ras-le-bol et on peut plus rester comme ça là. Si on laisse comme ça, je vous dis, il y aura un drame et puis on peut plus. On ne peut plus. On ne peut plus.
Attends, on va le mettre. Demain, Sandrine espère que les Calaisiens seront nombreux dans la rue pour crier leur ras-le-bol.
En voilà une. Yes!
Il est 22h. Sandrine et son amie rejoignent d'autres membres du collectif pour distribuer des tracts.
Bonsoir. Ça va? Merci. C'est notre prospectus pour la manifestation de demain. Ça fait une semaine qu'on fait ça. Tous les jours. Jusqu'à 1h du matin.
Des mères de famille comme Sandrine, mais aussi des chômeurs, des employés ou des artisans. Il y a encore quelques semaines, ils ne se connaissaient pas. Aujourd'hui, ils tractent ensemble dans un quartier qu'ils n'ont pas choisi par hasard.
Ce n'est pas une pub.
Il est situé juste sur le trajet des migrants lorsqu'ils rejoignent Eurotunnel à pied. Les habitants sont partagés entre la peur et la saturation. Pour le groupe de Sandrine, c'est l'occasion de rallier de nouveaux sympathisants.
Oui, je pense. Oui. Vous venez demain ?
On sait pas trop.
On verra bien si.
Qu'est-ce que vous pensez de la situation ? La situation, elle est grave. Il n'y a pas du tout de sécurité. Nous, on est là, on a quoi ? On a 18 ans. On a peur d'aller à Kleiner. Il y a des bagarres phénoménales. On n'est plus en sécurité, de toute manière.
Bah, vous avez vu cette jeune fille de 18 ans, comment elle parle ? Comment voulez-vous expliquer ça? C'est la colère qui monte de plus en plus.
Une colère qui est sur le point de s'exprimer dans les rues de Calais. Le lendemain, ils sont entre 800 et 1000 à avoir répondu à l'appel de Sandrine et de son collectif. Dans le cortège ce matin, il y a Sarah, dont la mère Nadine vit juste en face de la jungle. Une jungle qui, selon elle, menace désormais toute la ville.
C'est Calais entier qui est en danger. C'est pas que ma maman qui est soi-disant un cas isolé. Tout le monde ici est un cas isolé à ce moment-là.
Officiellement, la manifestation se veut apolitique. Aucun parti n'a d'ailleurs été invité. Pourtant, les slogans qui commencent à fuser ressemblent étrangement à ceux du Front National.
Calais aux Calaisiens !
Calais aux Calaisiens !
Stop à l'immigration !
Stop à l'immigration !
On est chez nous ! On est chez nous !
Ça veut dire quoi, ça ?
Ici, Calais, c'est à nous. C'est à nous, Calais. C'est pas aux réfugiés. Qui dégagent, on s'en fout d'eux. On n'a pas besoin d'eux. Ils nous foutent que la merde de toute façon, que de la merde.
D'abord, ils ont qu'à renvoyer tout simplement ceux qui ne sont pas des pays en guerre. Les Noirs ne sont pas de Syrie, ce n'est pas vrai. Donc il faut immédiatement les renvoyer. Ensuite, on s'occupe des autres qui sont en guerre.
Calais aux Calaisiens !
Sandrine est un peu mal à l'aise, d'autant que quelques mètres plus loin, certains commencent à proférer des insultes xénophobes. Les manifestants avaient pour consigne d'éviter les propos racistes. Sandrine a un peu de mal à empêcher les débordements.
Je fais attention.
Faites attention à quoi ?
À beaucoup de choses, là. Je crois que la colère, elle est montée encore d'un grade par rapport à la fois dernière. Donc je fais attention que ça dérape pas.
Les manifestants arrivent devant l'hôtel de ville. La cible de leur colère, c'est la maire de Calais, Natacha Bouchard, accusée d'avoir laissé la jungle se développer hors de tout contrôle, mais aussi d'ignorer la détresse des habitants et des riverains comme la mère de Sarah.
Nous voir en personne, chemin des dunes. Par contre, elles discutent avec les migrants, mais pas avec les Calaisiens.
Vous êtes en colère ?
Oui. De la colère parce qu'on est abandonné et on est considéré comme de la merde.
Les manifestants vont repartir sans avoir pu rencontrer la maire de Calais, qui les juge trop proches de l'extrême droite. Dans quelques jours, c'est le premier tour des élections régionales. Au municipal de 2014, le Front National n'avait recueilli que 8,5% des voix à Calais. Un score qui pourrait bien grimper en flèche. Rejetés par une partie de la population, les migrants sont aussi devenus les victimes d'un phénomène en pleine explosion, le trafic d'êtres humains. Il est 23h sur une aire d'autoroute de la région. Dans les cabines de la vingtaine de poids lourds stationnés sur le parking, les chauffeurs s'apprêtent à aller se coucher. À quelques mètres de là, cachés dans un bureau, deux enquêteurs de la police aux frontières commencent leur surveillance.
Où ils vont venir les cocos ? Ils vont venir repérer.
Ils appartiennent à la brigade mobile de recherche, la BMR, une unité spécialisée dans le démantèlement des filières de passeurs. Ces mafias utilisent les aires de repos pour charger des migrants dans les remorques, contre de fortes sommes d'argent.
Calais est sous pression et il y a énormément de réseaux de passeurs qui se sont mis en place, quoi. Toutes les aires de repos sont sujets à ce genre d'agissement.
Depuis plusieurs semaines, la BMR veut identifier des passeurs qui font monter les migrants dans les camions. Les policiers ont caché une caméra sur le parking.
C'est une caméra avec laquelle on peut jouer un petit peu. Hein. On a un petit joystick qui nous permet de déplacer l'objectif et de zoomer ou de dézoomer.
Après moins d'une heure de surveillance...
Oui, ça bouge. On les voit.
Là, juste derrière celui-là. Oh, il y a un paquet là.
Oui. On n'est pas loin de notre petite quinzaine. Là.
Les passeurs tentent de forcer les portes des camions. Puis ils se rabattent sur la bâche d'une remorque, plus facile à ouvrir.
Ça monte, hein, ça grimpe.
Ils chargent leurs clients, mais le bruit va réveiller le chauffeur.
Il a entendu.
Les passeurs disparaissent. Le chauffeur du camion descend vérifier sa remorque et en fait sortir les clandestins.
On va espérer qu'ils agressent pas le chauffeur.
Ouais. Il est seul, il sait pas combien de personnes à bord, il ouvre sa porte, il peut tomber sur n'importe quoi, sur n'importe qui. Et là, il a quand même descendu, allez, 7-8 individus, quoi, à première vue.
Ce soir, il n'y aura plus d'autres tentatives. Après plusieurs semaines de surveillance sur cette aire d'autoroute, les policiers ont réuni suffisamment de preuves pour intervenir. Au siège de la BMR, l'interpellation se prépare. Le chef du groupe, le capitaine Kasprick, dispose maintenant de dizaines d'heures de vidéosurveillance qui ont permis d'identifier clairement une demi-douzaine de passeurs.
On voit un tas de personnes, notamment regardez celui-là, qui a vu un camion s'approcher. Directement, il va voir si on retrouve un plomb au niveau de la remorque du camion, un plomb ou un cadenas. Ça, effectivement, ça lui permettra de voir s'il peut faire monter rapidement des gens dans la remorque du camion. Lui, ça fait 3-4 mois qu'on le voit, toujours sur la même aire, toujours en train de monter, d'ouvrir la porte du camion, refermer la porte du camion, et sans jamais changer.
La grande majorité des migrants finissent par être découverts au contrôle sur le port ou au tunnel. Les passeurs doivent alors recommencer et les charger à nouveau sur un autre camion. Mais malgré tout, ce trafic est extrêmement lucratif.
Combien ça coûte de passer en Angleterre ?
Passer en Angleterre, c'est entre 7 et 8 000 euros, en moyenne. C'est-à-dire que 7 et 8 000 euros, c'est des chargements comme ça, des clandestins qui ont fait appel à un réseau de passeurs, en général kurdes, kurdes irakiens, et qui vont tenter de passer de façon plus ou moins anarchique dissimulé dans la remorque d'un poids lourd. C'est du trafic d'êtres humains, clairement, parce que effectivement, en fait, les clandestins sont considérés par les passeurs comme une marchandise. Ils pourraient faire passer du stup. On fait passer les gens font passer des cigarettes, de l'alcool ou des stupéfiants de la même façon qu'ils font passer là aujourd'hui des clandestins. Et pour des prix qui sont équivalents, le trafic de migrants rapporte autant que le trafic de stupéfiants.
Voici la demi-douzaine de passeurs qu'il va maintenant falloir aller chercher. Une interpellation délicate, car ils se cachent ici, au cœur de la jungle de Grande-Synthe, un camp sauvage de 1500 migrants qui a poussé à 40 km de Calais. Le lendemain, 6h du matin, une trentaine de policiers investit le camp de Grande-Synthe. Des informateurs leur ont désigné une zone au fond de la jungle où se cacheraient les passeurs.
On progresse sur cette zone-là, comme on a dit, et ensuite on prend derrière.
Ouais.
Mais lorsqu'ils parviennent au temps de suspects...
Il n'y a personne.
Personne.
Bon, tout est vide.
Les passeurs se sont enfuis, probablement alertés par des guetteurs.
On avait eu le temps de cibler dans le camp, mais apparemment c'est pas bon. Il est pas dedans. Enfin, les cibles supposées sont pas dedans. On va reprendre un peu plus d'effectifs et je crois qu'on va se faire une par une l'ensemble des temps du campement. Il n'y a pas le choix.
Les policiers réveillent tout le camp à la recherche de leurs suspects.
Je peux voir votre visage s'il vous plaît?
Ok.
Ok, merci.
Mister Police.
La tactique des passeurs, qui se fondent dans la masse des migrants, semble fonctionner. D'autant que pour les identifier, les policiers ne peuvent se fier qu'à leur trombinoscope.
Mister.
Monsieur, vous avez un passeport?
Hello.
Des papiers?
Passeport, something, no? No paper? No.
Quel est votre nom?
Magdi.
Vous êtes afghan?
Iranien.
Iran?
Yes.
Okay. Je s'entends, c'est pas ça?
Okay, okay, merci, désolé.
Pour plaisanter, on pourrait dire qu'on cherche une aiguille dans une botte de foin. C'est pas la première fois qu'on fait ça. On avait mis déjà beaucoup de temps lors de l'opération d'il y a 15 jours sur un autre réseau. Et ici, c'est un petit peu le même principe, il faut refaire toutes les tentes. Beaucoup sont vides, il faut réveiller les gens, enfin, c'est un peu complexe, oui.
Après 2 heures de fouilles infructueuses, les policiers de la BMR repartent. Mais ils finiront par avoir leur revanche grâce au tuyau d'un informateur. Le lendemain, 6 passeurs sont interpellés. Certains s'apprêtaient à s'enfuir à l'étranger. Cet homme, un clandestin kurde irakien, est le numéro 2 présumé du réseau. Il avouera avoir fait passer une trentaine de migrants en Angleterre, moyennant 8000 euros par personne. Il encourt jusqu'à 10 ans de prison pour trafic d'êtres humains et association de malfaiteurs. Arras, à 110 km de Calais. C'est par cette ville que transitent toutes les décisions du gouvernement concernant la gestion de la crise migratoire dans la région. Une responsabilité qui repose sur les épaules de la préfète du Pas-de-Calais, Fabienne Bussiot.
Bonjour. Bonjour à tous.
La jungle monopolise une bonne partie de l'énergie de la préfète.
Bien.
Chaque lundi matin, elle fait le bilan des incidents de la semaine avec ses équipes.
Alors, un petit point sur Calais. On a eu des sujets d'ordre public. Bon, les forces de l'ordre ont fait leur travail. Ça a été un peu compliqué. Et on a eu vraiment un très grand nombre de migrants qui se sont dirigés vers Eurotunnel et qui nous ont fait des exactions à leur retour. Voilà. C'est vrai que parfois je dis que Calais me... Excusez-moi du terme un peu familier, me bouffe la vie. Mais en même temps, c'est un dossier unique, exceptionnel, difficile. Qui marquera, je pense, l'histoire de notre pays, qui concerne l'Europe entière. Et ça me semble important d'y prêter toute l'attention nécessaire.
Plusieurs fois par mois, Fabienne Bussiot se rend à Calais pour une visite de terrain. Le gouvernement lui a donné un double objectif. Sécuriser la frontière avec l'Angleterre, mais aussi démanteler la jungle. Une mission délicate, car la situation se tend de jour en jour.
Les
les attaques des migrants sont quand même de plus en plus hardes. Et j'ai bien conscience qu'il faut préserver la vie humaine, que ce soit du côté des migrants, mais aussi du côté des forces de l'ordre. Ça, c'est ma... Enfin, c'est vraiment ma plus grande crainte, qu'on n'ait jamais un problème dû à l'action des uns contre les autres.
La visite d'aujourd'hui est un résumé du mot d'ordre donné par le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Humanité, mais aussi fermeté. Tout d'abord, un petit crochet par le commissariat de Calais.
Bonjour.
Pour saluer les nouvelles recrues, venues gonfler les effectifs. Avec un policier pour 36 habitants, Calais est devenue la ville la plus sécurisée de France. Puis direction la jungle, pour visiter ce camp de containers qui vient de sortir de terre. Ils sont empilés les uns sur les autres, au milieu des tentes. C'est le nouveau projet du gouvernement pour héberger les migrants. Aujourd'hui, Fabienne Bussiot découvre pour la première fois le chantier qui s'achève.
Donc on a un pavillon témoin, avec les lits installés et tout. Mais alors on va tout...
À l'intérieur, 6 lits superposés, soit 12 migrants par container.
On a laissé de côté l'idée du radiateur électrique pour partir sur l'idée du sèche-serviette qui leur permet de faire sécher leur linge
tout en chauffant.
Il manque encore là les armoires.
Voilà.
Ils auront chacun une armoire.
Voilà.
125 containers de ce type ont été installés. C'est loin d'être suffisant pour héberger tous les habitants de la jungle, mais l'État n'ira pas plus loin.
On peut héberger dans des conditions vraiment impeccables 2000 personnes. C'est déjà énorme, hein, par rapport à une ville comme Calais, je trouve que c'est énorme et c'est donc suffisant. La bonne solution, c'est pas de les laisser s'installer durablement sur la lande. Il n'y a pas d'avenir sur le camp de la lande, il n'y a pas d'avenir au Royaume-Uni. L'avenir, c'est de s'installer ici et d'accepter l'aide que leur offre l'État français.
Une jungle réduite à ce camp de containers et la destruction programmée de toutes les tentes et des cabanes du bidonville. Mais pour en arriver là, il va falloir vider la jungle de ses habitants. Ils seraient encore entre 4 et 5 000 aujourd'hui. Régulièrement, des agents de la préfecture sillonnent le camp pour tenter de convaincre les migrants de quitter Calais.
On ne paye pas ? Je speak English ?
Si vous voulez, vous pouvez aller dans une autre ville en France ou vous vivrez dans une maison.
Ceux qui acceptent sont envoyés immédiatement en bus dans des centres d'accueil disséminés partout en France. Ils pourront y demander l'asile s'ils y ont droit, comme cette famille de Kurdes irakiens.
La vie sur la jungle est très dure. Il fait très froid dans les cabanes. Mon bébé est en train de tomber malade. C'est très dur d'aller en Angleterre. On ne peut plus y aller. C'est mieux pour nous de rester ici, pour notre bébé.
Dans le bus d'aujourd'hui, ils ne sont que 13 à avoir choisi de quitter Calais. Fin du rêve anglais et direction un centre d'accueil de réfugiés en Normandie. Mais pour tous ceux qui refusent de partir, la vie sur la jungle va devenir de plus en plus compliquée. Ce matin, Sikandar, le patron du Kaboul Café, a découvert d'étranges traces de peinture rose juste derrière son restaurant.
Voilà la ligne. Regardez, juste là. Vous voyez cette ligne ? Tout ce qu'il y a de ce côté à partir de cette ligne, toutes les tentes doivent dégager. On a 3 jours.
Est-ce qu'ils vont nous donner des maisons ?
Non, tu rêves ou quoi ? Vous devez tout démonter et vous installer ailleurs.
Cette ligne tracée par la préfecture, c'est le début de la fin pour la jungle. Les migrants sont pris de court.
Ils disent qu'ils veulent déménager toute la jungle. Qu'est-ce qu'on peut faire ? S'ils veulent nous faire dégager, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ils vont détruire nos maisons. Comment voulez-vous qu'on ne soit pas en colère ? Imaginez que quelqu'un vienne abattre votre maison. Avec ce mauvais temps, comment vous, vous vous sentiriez ? Bien sûr qu'on est en colère.
À terme, la jungle tout entière est promise aux bulldozers. Mais pour l'instant, seules les constructions qui se trouvent derrière les marques roses sont directement concernées. C'est le cas de ce restaurant, situé juste à côté de l'autoroute. Son patron, un Afghan, s'appelle Rachad.
Regardez la croix. La police m'a dit que tout ce qu'il y a entre ici et le pont, tous ceux qui sont sur cette zone de ce côté-là de la ligne, doivent dégager. Je pense qu'il y a au moins 1800 personnes qui habitent de ce côté. Et ils vont tous les faire partir.
Pour Rachad, c'est une catastrophe. Sa famille lui a envoyé 6000 euros pour qu'il puisse construire son restaurant. Il a 3 jours pour faire ses bagages, mais il n'a plus nulle part où aller.
La nuit, je dors là. J'ai 4 amis qui dorment ici, et moi, je dors là-bas. C'est ma couverture.
Donc ça n'est pas seulement un commerce ici.
C'est aussi ma maison. C'est pas seulement mon commerce. Ok, c'est mon restaurant, mais c'est d'abord ma maison. C'est là que je dors. Je n'ai pas de tente, moi.
Il y a 3 semaines, Rachad a construit une épicerie dans le prolongement de son restaurant. Elle aussi est condamnée à disparaître.
Venez voir mon magasin à l'intérieur. Je viens de le construire. Et à la fin de la semaine, ils vont tout casser. Où est-ce que je vais mettre tout ça? Là, il y en a pour 1300 euros de stock. Des sodas, des gâteaux, des shampoings. Tout ça va partir à la poubelle. Ils vont mettre tout mon business à la poubelle.
Quelques jours plus tard, il est 8 heures du matin.
Allez!
La destruction de la jungle commence.
Allez, vous vous habillez, monsieur, là. Vous récupérez vos affaires.
Sous la protection des CRS, les bulldozers entrent en action.
Je regarde, c'est bon. Hop, 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 debout, messieurs, debout.
Allez, on sort.
Ils s'habillent.
Réveil brutal pour Rachad, qui n'a que quelques instants pour rassembler ses affaires. Il n'a pas pu trouver d'endroit où déménager son restaurant et tout son matériel. Ce matin, à part quelques ustensiles de cuisine, il va tout perdre. Sous le choc, il refuse de s'exprimer et contemple impuissant la destruction de son établissement. Tout son stock est encore à l'intérieur. C'est le coup d'envoi du démantèlement de la jungle. L'étau se resserre sur les migrants pour qui la situation devient de plus en plus intenable. Leur colère est sur le point de monter d'un cran. À l'entrée de la jungle, plusieurs centaines de migrants se sont réunis à l'appel d'associations de soutien. Ils veulent marcher pacifiquement sur Calais pour dénoncer leurs conditions de vie.
Non à la jungle! Angleterre, Angleterre!
On est des êtres humains, pas des animaux. On ne veut plus vivre dans la jungle.
2000 personnes quittent le camp et prennent le chemin du centre-ville. Parmi eux, une grande majorité de migrants, mais aussi des militants associatifs et quelques activistes radicaux qui se battent pour l'ouverture de la frontière. Ils sont surnommés les no-borders. La police les suspecte de pousser les migrants à attaquer les clôtures pour passer en force. Cette jeune femme cagoulée qui se dit anglaise semble donner des instructions à un groupe d'Afghans.
Il faut que des gens restent sur la place et d'autres vont aller sur le port. Tant qu'on forme des grands groupes, ça ira. Ces gens ont fui la guerre et ils se retrouvent dans une prison à ciel ouvert. C'est une cage ici, ils ne peuvent pas partir.
Êtes-vous une no-border?
Nous sommes tous des no-borders. Tout le monde ici est no-border. Si tu viens ici, c'est parce que tu as une bonne raison. Personne ne vient ici sans avoir une bonne raison. Allez, on y va.
La manifestation pacifique va rapidement dégénérer. les migrants prennent la direction du port. Le cordon de CRS est vite débordé. Une première clôture est enfoncée. Puis c'est au tour de la barrière d'enceinte qui protège les terminaux d'embarquement des cars ferries. Pour la première fois, le port est envahi. Les CRS interviennent, pas assez vite pour empêcher une centaine de migrants de se ruer vers les bateaux. Ils montent à l'abordage d'un ferry qui est en train de décharger sa cargaison. Un geste désespéré qui va paralyser le port pendant plusieurs heures et se terminera par une reddition. 6 migrants vont finalement être condamnés à 1 mois de prison ferme. 2 activistes français écopent d'une simple amende. Les autres seront raccompagnés dans la jungle. Aux abords du bidonville, la maison de Nadine. La plus proche riveraine de la jungle a reçu une mauvaise nouvelle.
C'est passé que la police municipale, le 1er décembre, dans l'après-midi, vers 16h, 16h30, est arrivée donner ce courrier à maman. Donc ce courrier, c'est une mise en demeure de quitter le logement. Madame, je vous informe par la présente que la municipalité souhaite procéder à la récupération du logement 699 route de Gravelines. Par conséquent, je vous mets en demeure de libérer le logement dans un délai porté à 6 mois à compter de la réception de ce présent courrier, envoyé en recommandé par accusé de réception.
Une lettre de la mairie de Calais, propriétaire de la maison de Nadine, signée par la maire Natacha Bouchard. Nadine doit partir, officiellement pour garantir sa sécurité.
Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez reçu le courrier ?
Ce que j'ai ressenti. Ben, elle s'est effondrée et puis elle s'est mise à pleurer. Dis la vérité, c'est pas une honte.
Je me suis...
Faut le dire. Il faut le dire que Madame Bouchard t'a donné un coup de couteau dans le cœur. Point. T'as le droit de voter, toi.
Sarah et Nadine n'ont plus confiance en personne. Leur détresse, elles vont l'exprimer dans les urnes. Aujourd'hui, c'est le premier tour des élections régionales. Pour Nadine, la première sortie depuis longtemps.
Je voudrais dire une chose, simplement. Que si ma maison disparaît, je meurs avec. C'est tout.
Pour la première fois de leur vie, les deux femmes s'apprêtent à voter Front National. Attention au petit chien. Marine Le Pen, candidate à la présidence de la région Nord-Pas-de-Calais, a reçu Sarah en privé et a promis de l'aider si elle était élue. Dans ce bureau de vote, situé à quelques centaines de mètres de la jungle, la candidate FN obtiendra 53% des voix au premier tour.
À voter.
Un vote de colère, l'un des plus gros scores du Front National dans la région.
Est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'être récupéré politiquement ?
Ah, pas du tout. Ah non, pas du tout.
C'est-à-dire ?
Au contraire. C'est de la colère scandalisée, outrée. Donc, à cause de ça, là pourquoi j'ai changé mon vote, tout simplement.
Et en quoi le fait de voter Front National pourrait vous aider aujourd'hui ?
On ne sait pas.
Bah, je ne sais pas, en fait. Hein. On a tout essayé, rien n'a marché. Donc pourquoi pas ?
Voilà, essayez. On verra.
Plus que partout en France, la population de Calais est aujourd'hui totalement déstabilisée par la plus grande vague d'immigration que l'Europe ait connue depuis la Seconde Guerre mondiale.